Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, je n'avais pas envie de sortir de chez moi. Et je n'avais pas l'intention de faire mon émission. Il pleut sans cesse depuis un nombre incalculable de jours, il fait gris, il fait froid, et si le ciel n'y met pas du sien, me suis-je dit, pourquoi ferais-je un effort? Le fameux « à quoi bon ?» J'étais seule, j'ai annulé un rendez-vous, il pleut, je ne sors pas. On me répond « bisous d'escargot ». J'avais toute la journée pour moi, je pouvais ne rien faire si je voulais. En général, il suffit que je me dise ça pour que l'envie de faire quelque chose me revienne subitement. Mais j'ai traîné, et puis l'après-midi s'est amené, et inévitablement, une envie s'est pointée. L'envie de manger. J'avais faim. J'avais envie de sabler au citron. J'ai envoyé un texto à ma fille pour lui dire qu'elle me manquait, elle et ses pâtisseries. Et que pour me sentir avec elle, j'allais devoir faire des sablés au citron. Voilà déjà une deuxième envie. Ça se bouscule. Tu parles d'une journée à rien faire. Et c'est à ce moment-là que l'idée de ce que j'allais vous lire m'est tombée dessus. C'est très vite devenu une envie. Un livre m'est revenu en mémoire. Je vais le chercher, je le feuillette. C'est l'histoire d'une fille qui, après un chagrin d'amour, retourne vivre chez sa mère et ouvre un restaurant pour consoler les amoureux malheureux. Elle passe son temps dans sa cuisine. Et en feuilletant le livre, je remarque amusée que le nom de son restaurant, c'est l'escargot. Dehors, il pleut toujours. Mais voilà, mon édito est terminé. Maintenant, je suis obligée de vous lire quelques pages du roman de Ogawa Ito, Le restaurant de l'amour retrouvé.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Le jour dit, la favorite est arrivée à l'escargot en grand deuil, comme à son habitude. Elle semblait avoir du mal à se déplacer, appuyée sur une canne, chancelant à chaque pas. La tête toujours baissée, elle ne montrait pas son visage. À moi, elle me faisait le même effet que lorsque j'étais enfant et j'avais, si j'ose dire, l'impression d'être face à un fantôme. J'avais beaucoup de mal à croire que, comme Kuma le disait, cette vieille femme sombre avait autrefois été gaie et enjouée. Quelques jours plus tôt, en compagnie de Kuma, la favorite était déjà venue à l'escargot. C'était pour notre entretien. Mais malgré une tentative de dialogue par écrit, elle était restée muette, comme un reflet de moi-même, et je n'avais rien pu apprendre sur ce qu'elle souhaitait manger. Puisqu'elle ne m'avait offert aucune piste, il ne me restait plus qu'à décider moi-même du menu. Au début, je penchais pour un menu qui emprunterait aux bienfaits de la nature, doux pour le corps comme pour l'esprit. Par exemple, un kimpira de champignons matsutake, du tofu au sésame, une soupe de légumes racines, un shawan mushi, des recettes apprises de ma grand-mère.
Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Mes réflexions faites, j'en étais arrivée à la conclusion que cela n'avait pas de sens et j'avais abandonné cette piste. L'idée qui m'était venue, à force de me creuser la tête, c'était de traduire l'éventail des émotions avec des plats très sucrés ou très épicés, un menu aux saveurs contrastées, stimulantes. Que des plats aux goûts inconnus pour la favorite. Je voulais préparer un repas qui, comme la sonnerie d'un réveil, ranimerait ses cellules plongées dans une profonde léthargie, les galvaniserait. Voici le menu composé pour cette femme en deuil depuis des dizaines d'années. Cocktail à la liqueur de matatabi, pommes en saumure, carpaccio d'huîtres et d'amadais, samgyetang de poulet de hinay entier au chouchou. Risotto de riz nouveau à la poutargue, sel d'agneau rôti et champignons sauvages sautés à l'ail, sorbet de yuzu, tiramisu au mascarpone avec sa boule de glace à la vanille, expresso serré. Je n'étais pas sûre que ce menu lui plairait, vu son âge. Il était copieux et riche en produits laitiers. Mais ce que je voulais dire à la favorite, c'est que sa vie recelait encore une infinité d'univers qui lui étaient inconnus. C'était peut-être présomptueux de ma part, mais c'est ce que je voulais lui faire comprendre par le biais de la nourriture. Faites en sorte que les paupières à demi-closes du cœur de la favorite se rouvrent en grand sur le monde. Tel était mon souhait. Et puis, si elle ne touchait à rien de ce que je lui servais, je le mangerai moi-même, tant pis. J'avais passé plusieurs jours à tout préparer. Pour l'entrée, le matin même, au point du jour, Kuma m'avait conduite au port dans sa camionnette où j'avais choisi des huîtres et, comme poisson, un amadais bien frais. Le poulet de hinay, vidé et méconnaissable, baignait dans son bouillon au ginseng et à l'eau de vie, au fond du faitout. Le tiramisu, préparé avec du lait, de la crème fraîche et du mascarpone provenant de la même vache, déjà prêt, lui aussi, reposait au réfrigérateur. J'ai tendu à la favorite qui s'était installée lentement, en prenant son temps, une couverture pour ses genoux et je lui ai montré une de mes fiches. Je prépare votre repas, veuillez patienter un instant. Puis j'ai rempli une belle flûte à champagne baccarat d'un cocktail maison, un mélange de vin blanc et de liqueur de matatabi que je lui ai servi en apéritif. La liqueur de matatabi de 7 ans d'âge, un cadeau de Kuma, avait été fabriquée avec des fruits grignotés par des insectes et ramassés dans la forêt voisine. Ces fruits de la famille du kiwi sont tellement délicieux que même les insectes les mangent, dit-on. Pour obtenir une saveur plus délicate, je l'avais coupé avec du vin blanc. Élaboré par un viticulteur des environs, ce vin aux arômes frais et fruités se mariait bien avec la liqueur de matatabi à la forte personnalité. Le mélange des deux prenait une couleur d'ambre profond, comme de la poudre d'or fondu. Lorsque je me suis retournée, la lumière du lustre que m'avait donné la favorite s'est reflétée sur le verre à champagne, comme un kaléidoscope. De l'autre côté de la fenêtre, Kuma, qui avait accompagné la favorite, m'a fait un clin d'œil et un petit signe de la main. Il a attendu que je hoche la tête, puis il est parti dans sa camionnette. J'ai posé devant la favorite la pomme en saumure. La pomme, coupée en deux avec sa peau et saupoudrée de sel, avait reposé 2 jours dans la saumure. Les aliments en saumure méritent d'être retirés de la jarre un peu à l'avance, car, tout comme le vin rouge, leur saveur s'adoucit au contact de l'air. J'avais donc sorti et préparé la pomme avant l'arrivée de la favorite. Le sel faisait ressortir son goût sucré. C'était une entrée exquise. Après lui avoir poliment souhaité bon appétit dans mon cœur, je me suis profondément inclinée comme une ballerine saluant sur scène et je suis retournée en cuisine à pas presser. J'ai mis le faitout contenant le sangyetang sur le gaz à petit feu, tout doucement, pour réchauffer le bouillon et le poulet bien à cœur. J'ai soulevé le couvercle du faitout, le poulet de Iné, parfaitement méconnaissable, flottait gentiment dans sa soupe qui avait pris une teinte caramel. J'ai revu la scène de sa mise à mort quelques jours plus tôt. Le poulet qui tentait de s'enfuir, maîtrisé de force et à qui on avait tordu le cou, immobilisé les pattes et arraché quelques plumes pour trancher la carotide. Le sang rouge s'écoulait goutte à goutte de son cou. Encore vivant malgré tout, il agitait les pattes et les ailes. À vrai dire, j'ai failli détourner le regard plusieurs fois. Et oui, voir mon propre sang quand j'ai mes règles ou celui de quelqu'un qui saigne du nez m'effraie. Je frôle le malaise tellement je suis peureuse. Mais il fallait que je regarde, je l'avais décidé, et je me suis retenue de toutes mes forces de cligner des yeux. Au bout d'un moment, le poulet a arrêté de se débattre et il est mort modestement entre les mains de l'éleveur. Pour préparer ce plat, un poulet bien vivant avait été sacrifié. Pour le poulet de Iné qui y avait laissé la vie, comme pour la favorite, il était de mon devoir de donner le meilleur de moi-même. J'ai assaisonné la soupe en ajoutant le sel par toutes petites pincées. C'était du sel d'Hawaï, du sel gemme naturel récolté près de Diamond Head sur l'île d'Oahu, relevé d'un mélange d'herbes aromatiques et de gingembre. Ces gros grains ont la particularité d'être délicatement parfumés. Dernièrement, Kuma m'avait dit en passant avoir vu un jour des photos de la favorite et de son amant dans la résidence secondaire de celui-ci à Hawaï. Du coup, j'avais décidé d'utiliser ce sel. Un plat trop salé, c'est problématique, mais si on ne sale pas assez, on gâche bêtement les ingrédients. J'ai ajouté le sel avec prudence, en m'arrêtant au moment crucial. Par l'entrebâillement du rideau, j'ai discrètement regardé la favorite. Je m'en doutais depuis le début et j'avais vu juste, elle n'avait encore touché ni à l'apéritif ni à l'entrée. Alors, j'ai décidé d'attendre encore un peu avant de préparer le sangyetang et j'ai refermé le rideau, patientant discrètement dans la cuisine. J'ai remarqué que derrière les vitres, la nuit était déjà tombée. À l'entrée du sentier qui menait au figuier, un oiseau au chant curieux lançait des trilles aigus, comme s'il m'encourageait. Ouvrant doucement la fenêtre, j'ai aperçu l'oiseau au plumage bleu de cobalt qui s'envolait gracieusement en direction de la lune. Un martin pêcheur, peut-être. À côté d'un croissant de lune parfait, l'étoile de Vénus brillait, imposante. On aurait dit le drapeau turc. Cela m'a rappelé l'époque où je travaillais dans un restaurant turc. Pendant combien de temps ai-je contemplé le ciel étoilé ? Au bout d'un moment, un tintement de vaisselle a retenti et j'ai jeté un coup d'œil dans la salle derrière le rideau. La favorite, couteau et fourchette à la main, s'apprêtait à porter lentement à sa bouche un morceau de pomme en saumure. En regardant avec attention, j'ai constaté que le niveau de son apéritif avait légèrement baissé. J'ai immédiatement préparé une assiette pour dresser le carpaccio d'huîtres et d'amadets. J'ai mis des gants de travail et j'ai ouvert les coquilles avec le couteau idoine, révélant de grosses huîtres bien charnues. Je les ai disposées telles quelles, sans assaisonnement, sur une assiette blanche. J'ai apprêté le carpaccio d'amadé à côté. Le poisson avait mariné environ une demi-journée avec des algues kombu. Je l'ai salé et j'ai ajouté un filet d'huile d'olive. Une fois l'assiette servie, je me suis enfin attelée à la préparation du plat suivant, le sang yétang. J'ai posé le poulet mitonné dans la soupe sur la planche à découper et, avec un couteau, je l'ai débité en gros morceaux. La grande bardane et le riz gluant dont j'avais farci la volaille laissaient échapper le riche fumet d'un succulent bouillon. Rien que l'odeur me réchauffait le corps. Lorsque j'ai apporté à table sang yétang brûlant, la favorite avait presque vidé son verre d'apéritif et fini la pomme en saumure et les huîtres. Poussant sur le côté l'assiette avec le reste de carpaccio d'amadei, j'ai doucement posé devant elle le bol de samyétang avec son couvercle. Tant que le client ne me le demande pas, je ne débarrasse pas les assiettes qui contiennent encore de la nourriture, même s'il ne reste que quelques bouchées. C'est un de mes principes de service. M'inclinant une nouvelle fois à la façon d'une ballerine qui salue, j'ai disparu à la cuisine. La favorite a également fini le risotto de riz nouveau à la poutargue, à son rythme, mais sans en laisser une miette. Pendant ce temps, j'ai mis la dernière main au plat de résistance, la selle d'agneau rôti. J'avais choisi une viande maigre, généreusement badigeonnée de moutarde, enrobée de chapelure et poêlée à l'huile d'amande. Dans la chapelure, j'avais ajouté de l'ail et de la roquette finement ciselées. L'agneau, avec un point de fusion de la graisse assez bas, ne laisse pas un arrière-goût fort et on peut en manger tout son content. Quelques secondes après l'avoir avalé, chaque bouchée s'efface, comme emportée par une brise légère. Même avec l'estomac plein, cette viande se mange aisément. Pour les champignons, servis en accompagnement, Kuma m'avait dévoilé quelques heures plus tôt l'emplacement de son coin à champignons secret. Un coin à plantes sauvages ou à champignons, c'est un secret tellement précieux qu'on le cache même à sa famille, dit-on. J'étais ravie que Kuma m'ait mise dans la confidence. J'allais faire sauter les champignons sauvages fraîchement cueillis avec beaucoup d'ail. Tout en faisant revenir la selle d'agneau à la poêle, j'ai lancé un coup d'œil vers la table. Le verre d'apéritif était maintenant tout à fait vide. Pendant que la viande cuisait, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge et je suis allée remplir le verre de la favorite. Ce vin venait de chez le même vigneron que le blanc, c'était un vin naturel, élaboré avec le raisin de la région. Je l'ai goûté, il avait du corps et un bouquet riche, parfait pour accompagner de l'agneau rôti. Peut-être boirait-elle aussi du vin rouge. Cet espoir, ce souhait ténu avait effleuré dans mon esprit. Et comme je l'espérais, gorgée après gorgée, le vin rouge s'était frayé un chemin dans le corps de la favorite. Où pouvait-elle bien cacher, dans un corps si fluet, un estomac capable d'autant manger? Même mon amoureux indien, qui avait pourtant un solide appétit, aurait peut-être peiné à finir ce menu en entier, mais elle, de sa petite bouche, venait à bout de tout, lentement mais sûrement. Quelques minutes avant que Papy Hibou n'annonce les 12 coups de minuit, la favorite, qui avait vidé la bouteille de vin rouge à elle seule, a entamé le sorbet de yuzu. Je vous ai lu quelques pages du roman de Ogawa Ito, Le restaurant de l'amour retrouvé, paru en 2013 aux éditions Philippe Picquier.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.